d'Afrique. Que dans ce groupe, il y a aussi deux autres équipes qui sont l'AS Salé du Maroc, qui va croiser le fer avec le FAP du Cameroun dans le prochain match, et que c'est un tournoi dans chaque groupe, il y a quatre équipes, et vous avez toujours la possibilité de vous qualifier, même si vous terminez troisième. Le plus important, c'est de terminer meilleur troisième, et vous pouvez être repêché parmi les deux meilleures équipes, les deux meilleurs troisièmes, pour pouvoir participer au quart de finale, puisque les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées d'office pour ce quart de finale. Donc, Sedina, on salue ton retour, parce que pendant un moment, il y avait des petits problèmes. J'étais en train de dire que ce tournoi, c'est un long tournoi, et que par conséquent, il appartient à l'AS Police de regarder, de revoir ce match, et ils constateront qu'au niveau de la défense, au niveau des rebonds, ils ont pêché. C'est ce qui a permis à cette équipe angolaise de pouvoir prendre le dessus et l'ascendant sur eux, car finalement, à la fin de ce match, on peut constater que ils ont eu le même pourcentage de réussite, puisqu'ils ont, ils sont qu'à 37% de réussite de chaque côté. La différence se joue dû au fait que les Anglais ont tiré beaucoup plus de fois, 78 contre 67, mais aussi qu'ils ont été légèrement plus adroits à 3 points. Mais la différence aussi, c'est au niveau des lancers francs sur le plan offensif. Mais par contre, ils n'ont pas permis à cette équipe des polices d'avoir autant de rebonds pour avoir aussi autant de chances, de seconde chance pour pouvoir marquer des points. Et là, tout se joue à ce niveau. Donc la défense, et en particulier le rebond défensif, est un secteur dans lequel l'AS Police doit travailler énormément s'ils veulent avoir la chance lors de leur prochain match contre, je crois qu'ils jouent le 20, si je ne me trompe pas, contre l'AS Salé du Maroc. S'ils veulent avoir la chance de gagner un match et de revenir dans le classement à une meilleure position, ils se doivent de régler ce problème-là et d'avoir contrôler le tempo du match, contrôler le rythme du match est d'une importance capitale, parce que je crois qu'ils allaient des fois un peu trop vite par rapport à ce qu'ils auraient dû faire.
Oui, ils ont souvent confondu vitesse et précipitation. Et également, on a assisté à des numéros de solistes mal maîtrisés, c'est-à-dire il y avait des fois où les joueurs angolais étaient deux sur une prise à deux ou à trois, et au lieu de libérer le ballon, on a vu des joueurs maliens qui insistaient, alors que peut-être trouver un partenaire ouvert aurait été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus profitable à l'équipe. On a également assisté à des séquences où on avait l'impression que c'était plus du freestyle que des attaques organisées. En tout cas, sur ce qu'on a vu dans le deuxième quart-temps et dans le troisième quart-temps, où l'AS Police a dominé et a gagné au point, on pouvait s'attendre peut-être à une meilleure résistance de leur part s'il y avait une organisation tactique beaucoup plus pointue et des rectificatifs, surtout au fur et à mesure que le match évoluait. Mais je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai pas vu peut-être cet aspect coaching-là, cet aspect tactique au fur et à mesure. On avait l'impression qu'ils continuaient avec leurs erreurs, avec leurs errements, surtout défensifs.
Pardon, tu peux répéter, Sedina, je n'ai pas bien suivi cette partie.
Non, je disais que, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que le match avançait, même si l'AS Police a offert de bonnes séquences dans le deuxième quart-temps et dans le quatrième quart-temps, qu'ils ont gagné au point, on a l'impression qu'au fur et à mesure que le match avançait, il n'y avait pas ces rectificatifs tactiques qui leur auraient permis de rattraper le retard ou bien d'offrir une meilleure résistance dans le match. On a l'impression que les errements, surtout défensifs, ont persisté tout au long du match.
Tout à fait. On ne sait pas. Est-ce que leur coach leur a donné ces consignes et qu'ils n'ont pas pu les appliquer, ou est-ce que le coach a oublié d'en parler? En tout cas, ce serait un peu étonnant. Je crois plutôt qu'ils ont peut-être connu un problème de préparation, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire sur place pendant un match, si vous n'avez pas travaillé certaines habitudes dans le basketball, des automatismes, c'est très difficile de le faire pendant un match de 40 minutes. Et je pense que quand on voit comment ils jouent, j'estime que dans l'ensemble, ils ont quand même été assez brouillons pendant les 4 cartons, même s'ils ont eu ce relan de vouloir essayer de rattraper l'autre équipe, mais techniquement, fondamentalement, leur basketball a connu des problèmes. Et là, j'espère que ce repos de un jour du moins, ça va leur permettre d'aller retravailler certaines choses et que les joueurs vont se concentrer pour s'occuper des petits détails, parce que le basketball, ce sont les détails qui font la différence.
Oui, Eugène, et c'est comme je le disais tantôt, je pense que sur cette séquence, il y a eu coupure, mais je disais que des fois, on a assisté à des numéros de solistes mal maîtrisés, comme tu disais, des attaques qui étaient assez brouillons, parce qu'on voyait des fois les joueurs de Petro de Luanda faire des prises à deux, et des fois même à trois autour d'un joueur malien, et celui-ci, au lieu de libérer le ballon, s'endettait à vouloir faire la différence tout seul, alors qu'il aurait été beaucoup plus intelligent et profitable à l'équipe de libérer le ballon sur les joueurs ouverts, notamment à l'extérieur.
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on voit cette équipe de S-Police, ils ont eu plusieurs occasions où ils auraient pu faire, quand ils faisaient des contre-attaques, d'aller carrément à l'anneau, et ils ont préféré ressortir à trois points, et ce n'était pas nécessaire, parce que l'important, c'était de grignoter petit à petit. Et ils ont manqué de capitaliser dans ce secteur du jeu. 2 points plus 2, ça fait quand même 4. Bien, c'est pas tout le temps que le tir à 3 points est beaucoup plus long, et plus difficile à mettre, et donc par conséquent, ça leur a joué un sale tour.
Et l'autre problème, Eugène, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais ce qui résume toutes nos analyses, c'est que à la fin, on a l'impression que c'est plus le Petro de Luanda qui a eu des moments de relâchement, plus que des moments de domination de l'AS Police. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que sur ces deux cartons derniers par l'AS Police, c'est plus, comme tu le soulignais à la mi-temps d'ailleurs, par excès de confiance ou par relâchement du Petro de Luanda que l'AS Police a pu revenir. Mais l'AS Police n'a pas offert, autant sur le plan technique, sur le plan tactique que sur le plan physique, une résistance qui aurait pu peut-être leur permettre de remporter ce match. Et comme tu l'as dit, ce genre de tournoi, ce genre de match, il y a des points qu'on ne peut pas rectifier en 40 minutes. C'est des points qui se préparent à l'avance et qui permettent à l'équipe d'être beaucoup plus affectée pour changer le système dans le match, pour faire des ajustements techniques, entre autres.
Oui, tout à fait. En tout cas, c'est exactement ce que tu dis. Si on n'a pas appris à tirer des lancers francs, c'est pas pendant le match qu'on apprend à tirer des lancers francs. Donc, c'est clair, en tout cas, que le Petro Luanda, après un démarrage tonitruant, menant 29 à 9, je crois, ont vu et ont eu l'impression que, de toute façon, leur adversaire n'était pas assez fort pour jouer avec eux, ont un peu baissé les bras, ce qui a permis à cette équipe de police de revenir. Mais à aucun moment ils n'ont été d'une certaine manière inquiétés, et ils savaient qu'ils allaient gagner, mais à mon avis ils devraient, pour une équipe de ce calibre, Petro Luanda, parce qu'ils ont joué au très haut niveau, puis ils ont 8 joueurs de l'équipe nationale quand même dans leur rang, ils devraient jouer comme si ils continuaient à préparer la compétition, parce qu'il y a 2 autres matchs, ils doivent jouer les forces les FAP du Cameroun plus tard, et je crois leur prochain match, et en dernier, ils joueront contre l'AS Salé du Maroc. Ils se doivent d'être rigoureux et exécuter leur jeu pour moins se fatiguer, parce qu'ils devraient avoir de dépenser moins d'énergie dans un match comme celui-là, où à un moment donné, l'équipe de police a pu revenir à 9 points, 9-10 points, et ils ont été obligés de ramener ces joueurs du 5 majeur et se remettre à jeu comme si c'était un nouveau match. Ce n'est pas bon sur le plan physique. Nous espérons que dans les prochains matchs, ils vont jouer avec beaucoup plus de rigueur, cette rigueur que moi j'ai connue du basketball angolais. une rigueur à la limite mécanique et orthodoxe qui leur a permis d'être cette puissance du basketball pendant plus de 20 ans où ils dominaient tous les départs, où c'était l'équipe dont l'équipe nationale participait à tous les championnats du monde, tous les Jeux olympiques pendant plus de 20 ans. Donc nous espérons que cela se fera et que nous puissions voir continuer à voir du beau basket. Nous ne pouvons que souhaiter à l'AS Police de pouvoir faire un meilleur basket et de pouvoir corriger certaines de leurs manquements parce qu'ils en ont. Que leurs joueurs soient un peu plus concentrés, que leurs joueurs soient un peu plus collectifs, parce que des fois on assistait à des 1 contre 1 plus que des mouvements d'équipe, pour qu'ils puissent jouer quand même contre l'AS Salé, qui ne sera pas facile pour eux, parce que comme toute équipe de basketball maghrébine, ces équipes sont très techniques, hein, sont très ordonnées et ont un basket propre dans leur ensemble, puisque c'est leur manière de jouer au basket. Ils seront, eux, très patients et à la limite même, pour avoir eu à rencontrer le Maroc plusieurs fois, c'est des joueurs qui ne lâchent rien du tout. Ils jouent du début jusqu'à la fin et ils espèrent toujours, à un moment donné, de pouvoir gagner le match. Donc, pour l'AS Police, s'ils veulent avoir une chance d'être parmi les 8 équipes, même à la limite parmi les meilleurs 3e, ils se doivent, comme on l'a dit encore hier, les équipes ont tendance à ne pas faire des calculs, parce qu'à un moment donné, ils sont revenus à 13 points tout à l'heure à la fin du match, ils auraient dû dire et savoir que ce match-là, ils ne pouvaient pas le gagner et qu'on va essayer de garder, allons doucement, essayons de marquer des points, si on peut descendre en dessous des 10 points, ce sera un bon coup et ça nous permettra, sur le plan du goal average, compétir même si on perdait 2 matchs, au moins gagner le 3e pour pouvoir avoir la possibilité d'être parmi les meilleurs 3e, parce que c'est comme ça qu'il faut voir cette compétition, c'est un calcul. Parce que même une équipe qui perd, disons, 2 matchs, qui en étant meilleur 3e, enfin en quart de finale, peut gagner le quart de finale et se retrouver en demi-finale, c'est comme ça le sport, tout peut arriver.
Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, pour cette équipe du Petro de Luanda, vraiment, moi je rejoins parfaitement ce que tu dis. C'est-à-dire les séquences d'accélération et de décélération, de domination assez conséquentes et de relâchement ne profitent pas à mettre du rythme, en tout cas ne passent pas à donner du rythme à ces équipes-là. Et on l'a vu avec Carlos Moraes qui avait assez bien démarré le match, mais qui n'a, comme tu l'as souligné à la mi-temps, joué aucune minute durant le deuxième quart-temps. Et à partir de là, on avait l'impression qu'il avait un peu perdu la main, parce qu'un joueur comme lui shoot à 10%, c'est terrible. Donc l'entraîneur doit revoir peut-être certains points de sa rotation, ne pas très tôt couper l'élan de ces joueurs clés. Et du côté de l'AS Police, comme tu l'as dit, on espère que l'entraîneur va amener certains rectificatif parce qu'il le faut s'ils veulent au pire des cas terminer dans parmi les 2e et 3e et continuer la compétition qui, comme tu l'as dit, c'est un sport collectif. Rien n'est gagné d'avance, c'est pas dans une course de 100 mètres où on est certain que par exemple Usain Bolt va courir en 9 et quelques et que probablement personne ne peut le rattraper. Ici c'est un sport collectif, des individualités peuvent permettre à l'équipe d'aller vers le haut, tout comme des individualités peuvent être défaillantes et porter préjudice à une autre équipe. Donc c'est au coach et au collectif de tirer le meilleur à chaque match et comme ça ils pourront avancer et faire tout pour défendre clairement leur chance.
Tout à fait. Et donc normalement aujourd'hui, le match qui suit dans le deuxième match de ce groupe, hein, que cette journée, c'est la journée où on n'a que 2 matchs. Le deuxième match va opposer les FAP du Cameroun à l'AS Salé du Maroc. Et moi, de ce que je sais, j'ai un peu suivi sur Facebook, j'avais des informations sur la préparation de cette équipe de FAP. Ils se sont préparés assez sérieusement malgré cette période de post-Covid et je pense qu'ils viennent avec l'intention de faire de très très bons résultats là-bas à Kigali. Je sais que l'AS Salé c'est une équipe qui est habituée à jouer ce genre de compétition, participe très souvent aux Afro-Basket des clubs champions. Et se sont inscrites dans cette ligue africaine de basketball. C'est une équipe qui est très technique. D'ailleurs, soit dit en passant, l'un des joueurs de cette équipe joue avec la République centrafricaine, mon pays d'origine. Et donc, il va avoir l'occasion de croiser le fer avec celle du Cameroun, Sedina.
Oui, les forces, je pense que hier j'étais les souligner, mais demain certainement dans l'avant-match, on aura l'occasion d'en parler longuement. On se rend compte que, comme j'étais le souligné hier, en Afrique, les équipes qui ont le plus de possibilités et de potentialités sont les équipes parrainées par des institutions comme les forces armées, la police, la gendarmerie, entre autres. Je pense que ça peut être un bon sujet sur lequel on va se pencher demain dans l'avant-match, parce que là, on se rend compte qu'on est à 4 ou 5 équipes qui sont parrainées par les forces de défense, et ça nous amène à un peu réfléchir sur le modèle de financement du basketball africain pour qu'il soit beaucoup plus performant et pour que aussi plusieurs autres clubs puissent bénéficier du développement de leur structure. Revenant au match et aux joueurs, je pense que c'est une équipe qui est assez jeune, avec une moyenne d'âge de 27 ans, mais aussi qui est assez grande par la taille. Et donc, ça peut présager d'une bonne participation. Et comme tu l'as dit, quand la préparation est sérieuse, l'équipe a tous les atouts de son côté pour vraiment aller jusqu'au bout. Et ici, comme on l'a vu depuis le début, les premiers matchs nous donnent un peu une idée de ce que chaque équipe a comme capacité et de ce que chaque équipe peut accomplir, en tout cas. Pour ce qu'on a vu pour le moment, on a des équipes comme l'AS Douane, comme le Petro de Luanda, et les Zamalek dans une moindre mesure, parce qu'on attend toujours le Zamalek à un autre niveau que celui qu'on a vu hier, mais c'est des équipes qui, dans le fond, ont déjà montré qu'ils peuvent aller loin. Et on espère la même chose pour ces forces armées et policiers du Cameroun.
Oui, tout à fait. L'AS Salé ne sera pas derrière, parce que c'est une équipe qui a une expérience de la compétition internationale, avec de nombreux joueurs, eux aussi, qui jouent en équipe nationale. Et je suis convaincu qu'ils viennent avec des intentions d'aller le plus loin possible. Ils se sont préparés aussi assez sérieusement pour cette compétition. Et donc, on même si c'est vrai qu'au terme de l'âge, ils sont un peu plus vieux que l'équipe des forces armées et police, ils viennent avec des intentions claires pour cette compétition. Ils essaient au moins d'atteindre le quart de finale. Mais je sais que l'équipe venant du Cameroun, c'est des combattants. Et on va voir. Et d'ailleurs, lorsque tu parlais du fait du modèle qui est utilisé pour certaines équipes, où on voit bien que c'est les forces armées, gendarmerie qui s'occupent, qui ont ces équipes-là, on va retenir le modèle utilisé par l'Angola, parce que l'Angola, est, au départ, quand ils ont connu leur guerre des indépendances pendant les années 70, leur basketball démarrait à peine. Hein, et ils ont participé, je crois, à deux championnats d'Afrique, 79 et 81, où ils ont été terminés vraiment dans le bas de l'affiche. Mais le modèle qui était utilisé, c'était justement Primero de Agosto, les clubs, c'était que des clubs militaires. Et donc, l'équipe nationale était composée que de gars qui, en fait, étaient des militaires à l'époque. Que des militaires. Les Jean-Jacques Conceição, le capitaine, l'autre Conceição. En tout cas, la plupart des gars étaient dans ces équipes-là. Et donc, ils vivaient une discipline militaire. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont été formés. Et ça leur a permis de mieux se préparer. Et dès 83, l'équipe d'Angola l'équipe nationale d'Angola est montée sur le podium puisqu'ils ont été deuxième. C'était Alexandrie, je me rappelle, j'étais là, je me rappelle ce match où, par cause du goal average particulier, ils nous avaient passé, et un match qu'on avait perdu contre l'Algérie qu'on n'aurait jamais dû perdre, et ça leur a permis de jouer cette finale. Et à partir de ce moment-là, de 83 jusqu'à 2000, je crois que c'est 2017 ou 2017, je crois, l'Angola n'a jamais plus manqué le podium. Donc imagine un peu ce que ça représente. Donc ces équipes dans les autres pays africains qui copient ce modèle-là, peut-être s'en sont inspirés, et ça permettrait justement de former des joueurs où les gens sont beaucoup plus disciplinés. Et hier, quand on parlait justement de l'hygiène de vie des athlètes, ça peut permettre justement un meilleur rendement de compétitivité de nos athlètes à ce niveau-là.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un modèle qui peut marcher, mais c'est un modèle qui, par exemple, actuellement ne peut pas garantir un réel équilibre dans les championnats, parce qu'on le voit au Sénégal. Je donne l'exemple du Sénégal que je maîtrise. L'Aïstouane, par exemple, a des moyens que les autres clubs n'ont pas, a des investisseurs que les autres clubs n'ont pas, parce que, comme on les appelle souvent, c'est le soldat de l'économie, c'est une structure assez solide financièrement. Donc, plutôt parrainer autant un club de football qui marche bien également, qui est en première division et qui fait des résultats, et un club de basket qui est la meilleure équipe depuis plusieurs années au Sénégal. Mais, par exemple, si on copie le modèle du football que je te donnais l'autre jour, par exemple, où il y a des centres de formation avec des lycées intégrés, et qui aujourd'hui est le grenier de l'équipe nationale du Sénégal, et même parvenu à sortir un joueur qui joue au Paris Saint-Germain, d'autres qui jouent en première division en Angleterre, un ballon d'or africain. Pour moi, c'est un modèle qui peut se substituer efficacement au modèle qui est calqué sur la structuration adossée à une institution militaire, qui est un bon modèle, qui fait des résultats, mais qui ne peut pas prendre en charge plus de deux ou trois équipes par pays. Donc, il faut un modèle beaucoup plus diversifié, beaucoup plus copiable en qualité et en quantité, pour permettre au basketball africain de se développer comme le football est en train de le faire, en tout cas au Sénégal, parce qu'il y a des centres qui prennent en charge les jeunes depuis le primaire, le collège, le lycée. Ils ne payent aucun franc, ils sont bien formés, et quand ils ne réussissent pas en tant que professionnels du sport de haut niveau, ils réussissent en tant que cadre dans un domaine bien précis. On le voit ici avec les centres de formation qui ont été créés il y a moins de 20 ans et qui ont réussi à produire autant des joueurs performants que des cadres qui aujourd'hui défendent leurs intérêts sur le plan juridique, financier, entre autres. Et je pense que c'est des modèles à copier pour, au-delà de produire des sportifs de haut niveau, produire des hommes de qualité qui servent le développement du continent africain.
Tout à fait, Sedine Adla, je te rejoins à 150%, puisque de toute manière, comme je l'avais dit au départ, je suis président d'une organisation qui s'appelle Africa Education Sport, et justement, on doit utiliser les études, du moins le sport, pour former nos cadres. Et tout le monde ne peut pas être professionnel, et de facto, donc le sport interquartier, le sport scolaire et bien sûr le sport national permettent de construire le développement du basketball dans nos pays. Et à cela, on doit changer la culture, que nos hommes d'affaires soient impliqués directement sur le plan local, à investir. Absolument. Dans cette jeunesse, et de facto, nous obtiendrons les meilleurs résultats possibles. Donc, pour parler de ce match qui va se jouer, le match est prévu démarrer là-bas à Kigali, à 21h heure locale, c'est-à-dire 21h de Kigali, 20h de Kinshasa, 19h de Dakar. Et ces matchs vont passer, comme on l'avait dit, sur les différentes bandes FM dans les pays africains: Bangui 101.7, Brazzaville et Kinshasa 104.3, Matadi, Mbuji, Mayi et Kananga 93.5, Pointe Noire 98.3, N'Djamena 93.1, Dakar 102, Lubumbashi 102.8, Bukavu 97.4, Goma 96.2, Kisangani 97.7, Abidjan FM 99, à Ouaga 102.4, à Niamey 102.5 et à Lomé 102.3. On essayait d'avoir ce soir le président de la Ligue africaine de basketball, Amadou Fall, sur notre ligne. Ce n'est que partie remise, il n'y a pas de souci, puisque là, ce que je vais faire, on va essayer d'arranger ça et voir comment on peut avoir une meilleure ligne pour permettre à nos auditeurs, les jeunes basketteurs de toute l'Afrique, de pouvoir écouter celui qui est à la tête de cette organisation, qui est une organisation pionnière du professionnalisme basketball en Afrique et qui va probablement ouvrir d'énormes portes et amener notre ligue à suivre le chemin de celle de la NBA dans les jours et les années à venir. Et je pense que c'est un bon commencement. Nous devons rester positifs par rapport à cela, pour peu que nous puissions former nos cadres dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la gestion, que sur le plan technique, sur le plan marketing. Nous allons réussir cette mission. La VOA va participer, elle aussi, d'une manière ou d'une autre, à promouvoir ce nouveau projet qui démarre en Afrique, Sédina.
Oui, c'est un projet qui porte beaucoup d'espoir. Comme tu l'as dit, dans les années à venir, on espère avoir une ligue où, au lieu d'une phase finale même, on va assister à, comme cela se passe à NBA, arriver qui se déplace de pays en pays, de ville en ville, pour compétir tout au long de l'année, après peut-être des playoffs. Et une finale grandeur nature sur deux pays, pourquoi pas. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite au basketball africain, parce que comme je le disais hier, l'Afrique est un continent qui vit au rythme de la culture, au rythme du sport, au rythme de beaucoup de choses qui font sa diversité et sa force. Et je pense que si on parvient à mettre en place une ligue qui se joue sur plusieurs villes, qui côtoie plusieurs cultures, cela ne fera que raffermir les liens déjà existants et déjà solides entre les peuples d'Afrique. Et surtout, cela ne va faire que renforcer le développement du sport de haut niveau sur le continent.
Oui. Ben, Sédina, on tire vers la fin de cette émission, mais on va laisser Sagnou dire quelques mots par rapport aux infrastructures sportives, justement.
Oui, non, merci beaucoup Eugène, merci à Sédina. Je voudrais juste dire que cette émission, vous l'avez tenue, hein, ça a été une très très belle émission. On a vécu donc en direct de Kigali avec vous, notre correspondant Sédina à Dakar et Jean-Claude donc sur place donc dans la capitale rwandaise. Il faut dire que cette compétition qui n'est que le début pour l'Afrique, c'est une grosse opportunité et vous l'aviez dit, je suis charmé par l'annonce. Le fait qu'on va essayer d'avoir le président, hein, Amadou Gallo Fall, qui est lui-même joueur de basketball, vous le connaissez bien, vous l'avez côtoyé, et il a dit lors de l'ouverture de ce Basketball Africa League que tous les jeunes Africains auront désormais l'opportunité de se développer sur le continent sans avoir recours à l'extérieur. Donc c'est une très bonne occasion, j'espère qu'on l'aura sur nos antennes, et donc ça sera une très bonne occasion. En tout cas, merci à vous, bravo, ça a été une très très bonne émission, Eugène et donc Sédina à Dakar.
En tout cas, merci. Et on se rapproche pour demain. Donc, à tout à l'heure, dans une heure ou deux, dans une heure, il y a le match entre les FAP du Cameroun qui se jouera contre l'AS Salé. Nous vous saluons et nous vous disons au revoir du studio de La Voix de l'Amérique. À très bientôt. Sédina, on se parle plus tard.
Merci beaucoup, Eugène.
Ok, ciao. Au revoir.
I go chop banku, with the way you do your sexy wine. Why I no go chop banku?